Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous accueillir pour donc un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Après un dernier épisode teinté d'inquiétude, on va dire, cette semaine on va plutôt se tourner vers l'autre face de la pièce, vers les équipes qui surprennent plus positivement en ce début de saison NBA. Et pour ça, eh bien, on a tout d'abord un supporter d'une équipe qui a commencé plutôt fort, surtout leur franchise player qui a attaqué la saison pied au plancher. Je parle des Grizzlies de Ja Morant et de Tom. Comment ça va, Tom ?
Ça va. Je trouve que la description est un peu trompeuse, mais ça va.
Un peu trompeuse. On va en reparler. C'était un peu le piège de la description, mais bon, tant que ça va, c'est l'important. Et le troisième, Laurent, lui, disons qu'il vit un début de saison conflictuel en termes d'émotion. Pas encore de quoi tirer hein, la sonnette d'alarme, mais... On le voit plus poster des salles européennes ou des highlights d'Overtime Elite que de TD Garden en ce moment. C'est notre cher Alan. Comment ça va, Alan ?
Ça va super, les gars. Ouais, bah, j'ai pris mon buzzer annuel de Luca dans les dents. Ça fait 2 ans. Voilà. Mais j'ai gagné à Miami cette semaine. Et ça m'a fait plaisir quand même.
T'as aussi perdu 2 fois à Washington.
Oui, c'est vrai.
Tom, toujours pour rappeler les bonnes nouvelles.
C'est pour faire la transition, vu qu'on en parlera.
Exactement, messieurs, comme je le disais un peu plus tôt, on a hérité d'un podcast plus optimiste, nous, cette semaine. Exit les inquiétudes de début de saison, on va plutôt parler espoir, plutôt parler surprise. Donc, eh bien, écoutez, petite pause habituelle et on est parti pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Alors oui, en NBA, il y a toujours des équipes qui ont du retard au démarrage, des équipes au niveau attendu, mais aussi quelques petites surprises, des professionnels, des starting blocks qu'on n'avait pas forcément venir. Et il n'est pas forcément question là de faire un mea culpa, mais on va plutôt aller voir ces équipes qui attaquent fort et essayer de comprendre pourquoi, surtout si ça peut tenir aussi sur la durée. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, donc vous avez compris l'idée. Et on va commencer tout de suite par la première équipe du jour. Je vous propose d'attaquer par celle qui, honnêtement, on aurait dû voir venir en fait. On en parlait entre nous de cet effectif qui est plutôt homogène, de cette rotation assez large, de bons joueurs NBA. Et finalement, on les a peut-être un peu oubliés dans les previews. Et je parle donc des Wizards. Alors pour commencer, je vais me tourner vers toi, Alan. Est-ce qu'on les a pas un peu sous-estimés, ces Wizards, finalement ?
Je pense pas, mais c'est qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion d'en parler en fait. Mais je pense que pour nous tous, on était à peu près d'accord que pour moi, c'était sûrement une équipe lock pour le play-in. Moi, je les avais vraiment dans... alors on voit ce qui se passe sur les débuts de saison, mais pour moi je les avais devant Toronto et Charlotte hein, si je devais faire un classement. Je sais pas si ça se passera comme ça sur la saison, mais ils sont peut-être moins hype, ils avaient peut-être moins d'attente, mais ça va être un petit peu un thème de ce podcast et on en parle très souvent entre nous. Cette équipe là sur les 10 joueurs qui jouent en minimum 15 minutes cette année, il y en a que 3 qui sont en contrat rookie et c'est des petits temps de jeu, c'est-à-dire des petits temps de jeu et des joueurs qui sont dans des rôles pas faciles, mais des rôles un peu simples à se mettre en place. Il y a un mec comme Daniel Gafford, un mec comme Aaron Holiday. Et donc, en fait, ça t'élève ton plancher. T'as de la santé, t'as de la profondeur sur un début de saison. Ça facilite l'intégration du nouveau coach. En plus, ça, c'est le taf de Wes Unseld Jr. Il est plus simple qu'un taf d'autres coachs ailleurs qui doivent un petit peu modeler, lancer des jeunes. Et ben là, c'est, tout se passe bien. On le savait, voilà, des joueurs solides. Et puis le trade avec les Lakers qui a vraiment rebalancé les cartes. C'était eux qui avaient un effectif déséquilibré l'an dernier. Maintenant, c'est les Lakers. Et eux, ils ont un effectif beaucoup plus équilibré.
Il y a un dénominateur commun entre ces deux effectifs déséquilibrés, mais je ne vais pas le citer. mais justement, Tom, est-ce que ce n'est pas aussi ce que dit Alan, un peu ce qui va être le fil rouge de notre podcast du jour, cette histoire de niveau plancher ? C'est-à-dire que, comme l'a dit Alan, avec ce trade où tu récupères notamment des Kuzma, des KCP, sont des Montrezl Harrell qui effectivement bon, a pour habitude et il recommence cette année d'éclater des bons NBA, Est-ce que c'est pas ça la grande force de cet effectif des Wizards, c'est que le plancher est très haut finalement?
Ben oui, le plancher est très haut et cette année, par rapport comparé aux saisons dernières, le plancher il est plutôt sur la défense. T'as parlé du nouveau coach Weston Seld Jr. qui est connu, qui a été connu notamment pour être l'assistant défensif principal aux côtés de Mike Malone. Et on voit qu'aujourd'hui, les Wizards ils marchent bien grâce à leur défense en fait, puisque quand tu regardes globalement, ils ont la 9e défense de l'NBA quand tu prends le defensive rating. Alors, il y a peut-être un peu de chance là-dedans parce que quand tu vas regarder un petit peu plus en détail, tu t'aperçois que leurs adversaires shootent à 30% à 3 points. Et donc, tu peux te dire que ça, c'est peut-être un facteur qui peut se réajuster. Mais globalement, quand tu regardes le type de shoot
qu'ils allouent à leur adversaire.
Voilà, c'est ça. Le type de shoot que les adversaires prennent, ben en fait, tu sens vraiment que c'est une équipe qui, cette saison, joue très agressivement le drop, où ils ont, par exemple, tu as 40% des shoots des adversaires qui sont pris à mi-distance, et c'est eux qui donnent le moins de shoots à 3 points et l'un des moins plus hauts pourcentages de shoots au cercle. Donc là, ils ont le choix cette saison de pouvoir... Oui, parce que avant, même quand tu regardais toutes les rotations à l'aile, ben en fait, avant, ils jouaient simplement pour outscorer parce qu'ils pouvaient stopper personne. Alors que cette saison, ils ont du matos pour pouvoir faire la différence et ils s'appuient beaucoup sur la défense.
Ils s'appuient sur la défense et au rebond aussi. Oui. Ils sont très solides au rebond avec, justement, on parlait de Kyle Kuzma, tu l'évoquais, Alan, qui, sur ce début de saison, accroche 9 rebonds par match, qui se bat, qui a retrouvé peut-être, je sais pas, sans la pression de Los Angeles, sans la hype de Los Angeles, un niveau plus... qui correspond plus à son talent de base, hein, parce qu'on l'oublie. Et après, bon, vous l'avez dit, on aurait dû les voir venir. Ils ont quand même un over-under, si je regarde ESPN début de saison, à 34,5. Ouais, c'est pas très haut non plus.
C'est peu.
On aurait pu les voir plus haut. Et en plus, c'est aussi quelque chose, on en discutait là rapidement, juste avant de prendre le podcast, avec un Bradley Beal, puisque c'est ça aussi. Là, on a parlé de ce niveau plancher. On peut aussi se poser la question du niveau plafond de ces Wizards, jusqu'où on va les voir aller. Alors, ils sont probablement un peu limités, hein, on va pouvoir en parler, mais pour le moment, ils sont là avec un Beal moyen.
Là, franchement, le marronnier serait de dire... non, mais en fait, ce marronnier, ça serait quoi qu'on pourrait entendre ? Beal a moins à scorer, mais l'effectif est plus équilibré, ça marche mieux comme ça. En réalité, non. Parce que Bradley Beal, qui a 34% d'usage pour 49% de true shooting...
C'est une anomalie
et c'est pas bon pour ton attaque. Surtout sa capacité à aller sur la ligne, il est qu'à 20% sur les premiers matchs. J'ai regardé, je crois que ça fait 7 ans qu'il a pas un taux aussi bas. Donc ça, c'est une anomalie en fait. Les 10 premiers matchs de Bradley Beal, ça va se rééquilibrer, il va mettre plus dedans, il va être plus agressif, il va aller plus sur la ligne. Et ça c'est un vrai bon indicateur pour Washington. C'est-à-dire qu'ils sont à 6-3 de mémoire. Ils ont battu des équipes de playoff. Potentielle équipe de playoff, ils se font jamais vraiment défoncer dans les trois matchs qui perdent, voilà, et tout ça avec un Bradley Beal qui est même pas très en réussite là, honnêtement, hein. 34% de usage, 49% de true shooting, c'est vraiment pas bon du tout. Alors, est-ce qu'il y a une adaptation avec les nouveaux joueurs qu'il a joué à côté, l'adaptation à jouer avec un porteur de balle comme dit Windy qui aime beaucoup avoir la balle en main? Mais je pense que ça va se rehausser vers là positivement et ça va encore plus augmenter l'attaque de Washington.
Après, c'est vrai qu'en attaque, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de marge. Alors toi, tu parles, Alan, tu parles vraiment sur le côté réussite, mais même la façon dont leur attaque se déclenche. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de à toi, à moi, c'est très peu construit. Il y a pas mal de possessions où Dinwiddie, notamment sur les... Alors, c'est vrai que tu vois, sur le pick and, quand ils attaquent le pick and roll, et qu'ils arrivent à créer le décalage, le ballon peut bouger. Par contre, à partir du moment où tu les amènes sur un jeu où il y a du switch, mais là, le ballon arrête totalement de circuler, et c'est le joueur qui a la balle en main, notamment Dinwiddie, qui va jouer tous les switches en pensant que c'est lui qui a forcément le mismatch. Et en fait, il y a très peu de circulation de balle, et ça se ressent, puisque globalement, tu vois, c'est une équipe qui perd très peu de balles, mais c'est aussi une équipe qui fait vraiment très peu de passes.
Mais oui, je pense, à la 6%, ils sont assez bas.
Je pense que ça vient de l'idée que, à part les gardes, les ailiers sont pas de très bons passeurs, en fait. Les ailiers sont peut-être plus des joueurs qui terminent les actions. Ouais. Voilà. Tu vois, KCP, Kuzma, Bertans, Kispert aussi dans l'idée, même s'ils jouent peu. Là où, pour moi, les passeurs de l'équipe, c'est Dwindy, c'est Neto, c'est Holiday.
Donc, Avdija, tu vois, il y a quelques passages où il mène
le meilleur.
Un petit peu,
ouais. Complètement. Abdia, c'est peut-être le playmaker grand, leur meilleur grand playmaker de l'effectif, je pense.
Ouais.
Ouais, et puis il y a ce facteur-là sur la longueur de la saison, moi aussi, qui peut amener un motif d'espoir. Alors, même s'il n'y a pas forcément besoin d'espoir, mais du côté de Washington, c'est, vous l'avez dit, c'est que là, tu as cité des joueurs. Voilà, la liste, elle ne s'est jamais arrêtée. Il y a 10 joueurs à plus de 15 minutes, je crois. 9 ou 10 joueurs à plus de 15 minutes.
10 joueurs à plus de 15 minutes et leur rookie qui se perd, qui a 11 minutes.
Il joue peu.
Il joue peu parce qu'il ne met pas dedans. Mais s'il se met dedans offensivement, il va jouer. Il n'est pas négatif parce qu'il a 23 ans aussi, donc ça aide.
Voilà, donc tu as beaucoup de joueurs qui peuvent contribuer de manière positive et en plus bah, tu forces pas sur la corde des, tu vois, même Bradley Beal qui joue 35 minutes, mais tu vas pas forcer sur la corde si ça va pas. Et donc sur la longueur d'une saison, ça peut permettre une équipe. Alors là, parce qu'on reste encore une fois dans ces équipes de milieu de tableau, allez, milieu haut pour ce début de saison, mais milieu de tableau à l'Est où la course va être assez longue et elle risque d'être assez compliquée avec toutes ces équipes qui se battent pour les play-in. Et ça, ça peut encore jouer pour Washington. Alors juste pour conclure l'arc Wizards, je vais vous poser une question assez simple. On les voit où? On les voit en play-off ou on les voit en play-in, ces Wizards?
Au play-in, je reste sur le play-in, je pense.
Moi, pareil.
Même chose, Tom?
Ouais, pareil. Moi, en vrai, cette équipe-là, elle me rappelle un peu les Warriors We Believe. Un peu les Warriors We Believe avec pas mal de on va dire de feu follet, un peu avec Kyle Kuzma dans le rôle de Al Harrington, tu vois, KCP un peu dans le rôle de Stephen Jackson, avec un peu de
Montrelis,
Gafford dans le rôle de Biedrinks, tu vois, il y a pas mal de petites similitudes. Alors je sais pas si d'un point de vue explosion ils peuvent aller à ce niveau-là, mais je trouve que c'est une équipe qui est vraiment bien construite. Encore une fois pour la saison régulière, mais je pense qu'ils vont être quand même limités au bout d'un moment parce qu'il va falloir battre les grosses équipes. Et quelque chose qui m'inquiète, moi, par exemple, on a discuté un petit peu en off, c'est une équipe qui aujourd'hui a un très bon bilan et qui a l'un des plus hauts temps de jeu dans le clutch, qui a 4-0 dans le clutch, alors qu'ils ont un net rating négatif dans cette même période. Donc moi, je pense que ça peut être un facteur de régression.
Autant Bill peut hausser son niveau, autant il va y avoir des facteurs de régression. Ça va s'annuler en fait sur la saison, quoi.
Et surtout, enfin, quelque chose aussi qui moi m'inquiète un petit peu pour eux, c'est ça va être le retour de Thomas Bryant dans la rotation, puisque si jamais Thomas Bryant récupère des minutes, aujourd'hui il s'appuie défensivement sur un bon Montrezl Harrell retrouvé notamment au rebond et surtout un énorme Daniel Gafford qui cette saison il a passé encore un step sur la compréhension défensive, sur les rotations, sur les aides et vraiment sur la défense en drop, c'est quelqu'un qui est très rarement pris à défaut sur ce type de défense là et c'est pas une défense qui est facile à jouer par tout le monde, # Karl Anthony Towns. Donc du coup je trouve que avec le retour de Thomas Bryant qui est lui pas connu pour sa défense et qui est plutôt un intérieur offensif, ça peut peut-être changer la trajectoire de l'équipe.
Oui, et puis tu as cette problématique arrivée en play-off aussi, moi, avec ces équipes assez homogènes où tu n'as pas une claire hiérarchie, on va dire, entre tous les joueurs. Quand tu vas devoir resserrer les minutes, parce qu'il y a certains joueurs aussi qui sont plus ou moins jouables en play-off selon les profils, comment tu vas trouver un équilibre? Comment tu vas arriver à trouver la bonne dynamique, à ne pas frustrer certains joueurs? Est-ce qu'ils seront efficaces sur des minutes plus restreintes? C'est d'autres problématiques au moment où tu arrives dans les matchs coup près. On n'y est pas encore, mais ce sera des questions qu'on pourra se poser. Du côté de Washington.
Je trouve qu'il y a beaucoup de Pacers de ces 3-4 dernières années dans ce truc. Et je l'avais dit peut-être avec un peu moins de potentiel plus, mais il y a des Pacers de McMillan dans cette équipe, je trouve. Très solide. Ils vont pas eux-mêmes se battre. Ils vont chaque soir arriver avec un niveau qui sera ce qu'il faut. Je pense pas qu'ils ont un potentiel plus. Mais c'est une très solide équipe NBA.
Après, ça sera peut-être l'équipe étalon à l'Est.
C'est ça. C'est ça. Après, ça peut se débloquer aussi sur Bradley Beal, puisque tu sais pas, en fonction du niveau que lui retrouve. Et puis, Dinwiddie, c'est pas un joueur que nous, on aime forcément voir jouer à l'année moi. Mais force est de constater que c'est un mec qui, quand même, revient d'une blessure très grave et que lui aussi devrait s'améliorer dans l'année. Et puis, même, quand on parle beaucoup aussi du niveau de guard play, dans cette équipe-là, le niveau de guard play, il est bon parce que même Raul Neto, pour le prononcer correctement, il est bon en fait, il est super
et même
bon.
Même Holiday,
donc défensivement sur le backcourt défensivement ils font plutôt les efforts et surtout les remplaçants sont plutôt bons, quoi.
Très bien, nous voilà, les Wizards sont consacrés maître étalon à l'Est pour savoir si vous allez être une équipe compétitive. En bilan, on fera le bilan à la fin de la saison. Je propose qu'on enchaîne avec une autre équipe de l'Est, peut-être une équipe qu'on avait un peu moins vu venir, notamment puisque le joueur qui est considéré comme leur première option était out pour blessure en ce début de saison, un certain Pascal Siakam. Et donc des Raptors qui s'accommodent plutôt pas mal de l'absence de Pascal Siakam, qui ont trouvé un certain équilibre, notamment autour d'un OG Anunoby assez impressionnant. Je sais que Ben l'aime beaucoup, même s'il n'est pas là pour en parler. Voilà, on va le dire, OG Anunoby qui est très bon pour ce début de saison. Voilà, des Raptors qui sont présents une nouvelle fois pour ce début de saison, qui surprennent quelques personnes. Alors, ils sont 8e, hein, alors on parle, ils sont à 6-4. C'est pas extraordinaire, mais c'est peut-être un peu mieux que ce qu'on pouvait attendre. Tom, du coup, vu que j'avais lancé Alan tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison des Raptors? Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on retrouve un peu d'espoir après une saison dernière où on était peut-être un peu crispé?
Bah, les Raptors, ils sont à 6-4, mais ils ont gagné 5 de suite, en fait. Ils ont gagné 5 de suite, puisqu'ils avaient un petit peu mal commencé la saison. Ils avaient commencé la saison à 1-3, et puis depuis leur victoire contre les Knicks, je crois qu'ils enchaînent comme ça avec, du coup, la grosse performance d'OG, comme tu l'avais très bien mentionné. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont quand même impressionnants. Moi, ce qui me choque, entre guillemets, quand je les regarde jouer par rapport aux autres équipes, c'est le niveau d'agressivité défensive. Globalement, c'est une équipe qui est vraiment très active et ça se ressent après dans les statistiques. C'est l'équipe qui est numéro 1 de très loin au nombre de déflexions par match. Ils sont ils en ont à peu près 22 par match, et il y a que Philly qui est au-dessus de 18. Donc ils sont très très agressifs et même sur tout ce qui est rebond, je les trouve très 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 forts, notamment sur le rebond offensif.
Et ils sont premiers au rebond offensif.
Bah, tu sens que c'est une équipe qui utilise vraiment pas mal sa longueur. Et offensivement, moi j'étais un petit peu inquiet pour eux, notamment sur la création de mid-range. Je me suis dit que, ok, ils auront une grosse défense, mais du coup, ils seront obligés de mettre Dragic, puisqu'il n'y a pas vraiment de créateur en dehors de Fred VanVleet. Et en fait, on se rend compte que Dragic, il ne joue pas parce qu'il ne défend pas, en fait. Il ne joue pas parce qu'il ne défend pas. Et globalement, ils arrivent à maintenir une attaque plutôt correcte par moi, ce que j'appellerais une stratégie de pilonnage, où même s'ils ne sont pas à droite, en fait, ils prennent tellement plus de shoots que l'adversaire qu'au final, ils ont pas mal de secondes chances, parce que soit les secondes chances ou même les interceptions, tout ça, ça leur donne pas mal de paniers en plus. Et ils shootent beaucoup plus que les adversaires en moyenne. Tu vois, ils prennent 11 shoots de plus en moyenne par match que leurs adversaires.
Et alors, tu as cité le cas Goran Dragic, hein, qui a joué que 4 matchs hein, finalement.
62 minutes, oui, il a joué.
C'est ça. Do not play coach decision, comme on dit, donc qui est volontairement écarté de cette rotation. Et pourtant, on ne souffre pas trop de cette création. Comment tu vois ça, toi, Alan? Alors, je suis obligé de te poser la question, puisqu'on en voit de partout. Et c'est vrai que moi, personnellement, et on est d'autres aussi, je crois qu'Ilias l'aime beaucoup, on a été assez surpris du niveau en fait, de Scotty Barnes. Ouais. Tu nous avais annoncé qu'il était bon. Hein, il était assez haut, je crois, dans ton board, hein, genre 4.
Là voilà. Où il a été drafté.
Là où il a été drafté. Et un Scotty Barnes qui est, bah, en fait, qui est peut-être la cause de l'oubli de ce manque de Pascal Siakam en fait, sur ce début de saison.
Honnêtement, je suis aussi impressionné. Je pensais que, en fait, l'idée de Scotty Barnes, les scouts disaient le meilleur, si tout marchait bien, on parlait pas d'un Giannis, mais d'un genre de joueur qui pouvait être pilonné à l'intérieur, comme a dit Tom, parce qu'il était plus grand, plus puissant que toi, et il avait quand même des qualités de handle qui faisaient qu'il pouvait un peu naviguer.
Une espèce de Lamar Odom, quoi.
C'est ça, et tu mettais des shooters à côté. Et là, ça pouvait, avec en plus son potentiel défensif qui est pour moi extrêmement élevé. J'avais jamais vu, lui et Mobley étaient pour moi deux potentiels All Defensive Team. J'en avais jamais évalué deux dans une même draft, et je pense que ces joueurs-là peuvent l'être en fait. En fait, quand tu regardes les stats avancées de Scotty Barnes, elles viennent un peu nuancer ce qu'on voit là. Et c'est normal en fait, parce qu'il a 19 ans, parce que il porte plus la balle cette année qu'il l'a jamais porté en fait. C'est-à-dire que en high school, il jouait avec Cade, donc c'était un peu le glue guy. Il a toujours eu ce rôle de glue guy. Il a encore ce rôle de glue guy, je trouve, mais il porte la balle. Enfin, il a un taux d'usage de 20, au-dessus des 20%. Je pensais que ça allait pas être au-dessus de 20% moi cette année. Alors, son développement sur le mid-range est super intéressant. Il fait des bonnes passes et tout, mais en fait, je trouve que surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il joue avec Van Vliet, Anunoby, et ça l'aide énormément parce que Van Vliet et Trent, j'ai oublié Trent. Trent et Van Vliet sont des joueurs de catch and shoot super forts. Anunoby est un super joueur pour couper et pour offrir des solutions à l'opposé. Van Vliet peut jouer du pick and roll aussi, Et donc ça aide en fait. Ça aide parce que, et de toute façon, il n'y a pas de secret. Les jeunes, les rookies, qui marchent sur ces 10 premiers matchs, ils jouent avec des vétérans ou avec des coachs qui savent bien les mettre en avant. Et ceux qui ont un peu plus de mal, bah, ils jouent avec des jeunes ou avec des coachs qui cherchent un peu, tâtonnent sur les rotations. Donc moi, je suis en fait super content que Barnes soit tombé avec Nurse à Toronto parce que c'est le meilleur environnement possible. Mais c'est quand même surprenant, je trouve, je veux le dire, ce développement du pull-up à mi-distance,
ouais,
aussi rapide, je ne m'y attendais pas, personnellement.
C'est étonnant.
Il en met, hein. Il en met, franchement.
Oui, il met, non mais voilà, bon, t'as fait un bon résumé du profil Scottie Barnes, c'est finalement aussi qui illustre, tu vois, t'as cité plein de joueurs, on en a d'autres, on va revenir sur un peu ce qu'on disait au Wizard, alors un peu plus court quand même, parce qu'il y a le fameux cas Goran Dragic, mais on a quand même, allez, 7-8 joueurs qui jouent 12-13 minutes, en descendant jusqu'à Chris Boucher à peu près. Voilà, donc beaucoup de joueurs qui contribuent. Tu l'as dit, Tom, beaucoup de joueurs physiques. Moi, c'est ça que j'avais noté. C'est très physique.
C'est long. C'est même quand tu regardes, par exemple, tu vois, il y a pas de, enfin, le Banton là,
D'Alano Banton.
Ouais, ce mec-là.
Le Canadien.
Ce mec-là, il arrive. Il est super grand. Il arrive et quand tu le vois arriver sur le terrain, tu vois, parfois c'est lui qui prend la création. Il laisse Fred VanVleet un peu sur le côté. Et en fait, je trouve que t'as parlé de VanVleet et de l'impact de VanVleet. Je pense qu'il fait un gros début de saison. Alors il a raté peut-être offensivement ses premiers matchs, mais je trouve que il est vraiment bon. Notamment, c'est une grosse menace à mi-distance. On l'a vu, hein. Il n'hésite plus à attaquer les. Enfin, par exemple, contre le match contre les Wizards où il colle 33 points. Il n'hésite plus à attaquer les défenses en drop, là où avant il s'arrêtait beaucoup pour forcer entre guillemets le pull-up à 3 points, là il va essayer d'agresser un petit peu plus dans la raquette. Alors même si le shoot vaut moins de points, mais il met beaucoup plus de pression sur la défense en fait par ce jeu à mi-distance, et tu sens qu'il commence à avoir un peu une sélection de shoot entre guillemets star superstar, quoi. C'est des shoots de star superstar qu'il prend. Et même, tu vois, Nurse, on voit que il l'utilise, même si l'attaque est construite autour de lui, mais il a pas tout le temps, tu vois, c'est totalement le gros contraste par rapport aux Wizards. Genre, ils vont le laisser un petit peu dans le coin, les autres vont développer l'attaque, et ils vont le retrouver après en fin de possession. Il a pas, tu vois, il a pas attaqué chaque possession la défense en frontal. Parfois, il peut se poser tranquillement et attendre, laisser d'autres porteurs de balles, puisque les mecs, il y a pas mal de grands porteurs de balles, même Anunoby a fait des progrès là-dessus, hein. Donc du coup, je trouve que VanVleet est hyper bien utilisé là-dedans, et même, tu vois, comme je te disais, Banton, moi je connaissais pas du tout ce gars-là, le mec, il porte la balle, il est très agressif sur le cercle, il drive beaucoup, enfin,
très long,
ouais,
aussi,
il est très long, enfin, ouais, ils sont...
C'est un porteur de balles, c'est un porteur de balles à la fac. Juste, c'est qu'il savait pas tirer, mais... physique, encore une fois, je suis désolé, Toronto, c'est des masterclass de draft les unes après l'autre et de développement. Ils ciblent, ils font travailler, et il y a Nurse. Et Nurse, franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans l'élite des meilleurs coachs NBA. Je trouve, hein, personnellement.
Ouais, mais parce que l'année dernière, je pense, tu vois, la notion du costume de Fred VanVleet là, que tu viens d'amener, Tom, je pense qu'elle est intéressante. Je pense que l'année dernière, ils ont voulu essayer quelque chose en donnant. Alors, trop d'importance, peut-être pas, mais en tout cas, il fallait essayer avec VanVleet, Siakam. Tu as voulu dire, bon, OK, c'est à vous, on vous donne les clés et on joue pour vous. Et finalement, après le trade pour Gary Trent, et puis là, donc, OG Anunoby qui continue de progresser, on retrouve bon, une homogénéité un peu plus...
Et puis, ils ont tanké sur la fin d'année l'année dernière.
Ils ont tanké salement. Ils ont tanké.
Et donc, c'était sûr que c'était pas beau à voir, quoi.
Voilà, et donc là, avec un jeu un peu plus homogène, et comme tu l'as dit, Tom, peut-être un peu plus réfléchi, parce qu'ils sont très très lents, hein, ils sont avant-dernier à la pace, donc vraiment, ils y vont tranquille, c'est-à-dire qu'ils se pressent pas, mais du coup, j'ai l'impression que tout le monde est plus à l'aise dans son rôle que VanVleet, comme tu dis, même s'il commence à prendre des shoots qui sont importants, il a cette responsabilité-là, mais peut-être, j'ai l'impression qu'il force moins que l'année dernière, je le vois moins, dire, il faut à tout prix que je sois le sauveur, entre guillemets, et en faire un peu trop. La question que je me pose, et que je vais vous poser là maintenant, c'est le retour de Pascal Siakam, qui est normalement ce soir, à l'heure où on enregistre, si je dis pas de bêtises, en minute 13-30. Donc, où est-ce qu'on glisse Pascal Siakam là-dedans? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est une inquiétude? Ou est-ce que c'est plutôt positif? C'est-à-dire que tu rajoutes Pascal Siakam, un autre joueur long, dans cette histoire, un mec capable de se créer un shoot à mi-distance quand même, à un certain niveau assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on en pense, Tom? Je t'ai vu hocher de la tête.
Ah, pour moi, c'est absolument pas un problème. Au contraire, enfin, Pascal Siakam, il vit parfaitement là-dedans. Il vit parfaitement dans ce qu'il
faut. Ce qu'a dit Tom de VanVleet, c'est parfait, Siakam.
Ouais. Oui, non, mais on est d'accord. La question était tournée volontairement.
Ouais, bien sûr.
Il fit parfaitement. Après, la question qu'il y aura, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aujourd'hui, tu vois, ils commencent avec Precious Achiuwa au poste 5 et ils finissent généralement avec Kemba Birch au poste 5. Du coup, les fans. C'est d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que d'habitude, on va les équipes vont plutôt commencer entre guillemets avec un pivot dit classique. Et vont et après finir avec un pivot un peu hybride, tout, ouais. Voilà, c'est ça. Alors que eux, ils font le contraire, ils commencent avec un pivot un peu hybride et finissent plus souvent les matchs avec un pivot plus classique. Alors peut-être que Nick Nurse a plus confiance en Kemba Birch pour ne pas faire d'erreur du coup, quand Achiuwa, puisque Achiuwa qui est quand même brut, un peu brut de découvrage, il est assez intéressant, hein. Enfin, on voit que même sur les débuts de match, ils essayent de l'activer très tôt en essayant de lui donner, tu vois, de lui donner un play, quoi. Enfin, d'appeler une action pour lui, pour après l'engager défensivement. Alors que en fin de match, c'est plus vraiment du basket d'opportunité. Après, concernant Siakam, moi, comme tu dis, moi, je vois aucun problème à la façon dont ils vont le réintégrer. Après, faut voir qui sort du 5. Qui sort du 5, tu vois. Est-ce que tu vas faire débuter Pascal Siakam en 5 alors qu'il sort d'une blessure assez compliquée, aller le forcer à aller se coltiner les babards, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas, enfin, surtout qu'il faut l'économiser un petit peu, voilà, c'est pas un cadeau. Donc du coup, je sais pas comment qui vont enlever, parce que Gary Trent, il est devenu trop important, je trouve, dans le 5 majeur aux côtés de Van Vliet, et ils peuvent pas l'enlever. Et puis t'as quand même ta rotation. Bounce qui est plus avancé que ce qu'on aurait pu penser, et OG qui est énorme, enfin, sur le début de saison.
OG qui est le meilleur joueur des Raptors, ouais. Enfin, pour moi.
J'aurais dit Van Vliet, ouais. Ouais, mais oui.
Enfin, tout est. Ouais. Sur des deux côtés du terrain, j'aurais dit. Mais
du coup, est-ce que tu l'intègres en poste 5, ou est-ce que du coup, tu enlèves peut-être Scotty Barnes pour lui donner du playmaking beaucoup plus de temps? Puisque en fait, si Siakam revient, ce qu'il faisait avec la first unique, peut-être qu'il pourra pas en faire autant, il pourra pas peut-être autant porter la balle.
C'est une bonne chose. Après, tu vas voir les fans de Toronto qui vont être un peu énervés, mais le plus important, c'est le développement de Barnes et de gagner des matchs aussi. Après, je pense qu'on a vu que Nurse aussi était pas peureux de tenter des 5 un peu hybrides. Il pourrait mettre Pascal Siakam en 5, hein, mais après, c'est vrai que c'est pas. Si tu vas
pas tout de suite.
Tu reviens et tu vas te taper les Miles Turner, les
Joel Embiid.
Voilà, c'est vraiment.
C'est pas idéal, c'est pas idéal.
C'est vraiment pas simple. Mais après, c'est un truc que je me suis dit. Je pense que Barnes, en fait, je le compare un peu à Haliburton. Alors, dans l'idée que, en fait, c'est des prospects qui n'avaient pas des projections faciles dans des rôles où on se disait il y a des problèmes, mais en fait c'est juste des joueurs positifs en fait. Et donc il y a des joueurs dans chaque classe de draft, il y a des joueurs qui, alors tu te dis bah ça a pas fonctionné en termes de fit, ça a pas fonctionné parce qu'il sait pas faire ça avec des joueurs à côté, mais c'est juste en fait ils sont juste des fois trop bons pour que tu les sortes du terrain. Donc la question à Haliburton, c'est un peu ça du côté de Sacramento par moment, et je trouve qu'il y a de ça aussi dans l'idée de Barnes. Des fois on se demande comment ça marche, on sait pas vraiment pourquoi, mais juste il est positif. Donc faut quand même que Barnes voit ses 25 minutes par match, et je pense, en fait, l'absence de Siakam sur les 10 premiers a été un peu bénéfique pour lui. Ça l'a aidé, ça l'a dû le mettre en confiance. Et vu qu'honnêtement, en termes de mentalité, c'est l'un des prospects les moins à risque de l'histoire des prospects, tellement il est positif là-dessus, je pense pas qu'il y aura de soucis, franchement.
Ouais, ça va être une question d'équilibre sur les différentes line-up qui vont voir le terrain, parce que c'est ça, il bénéficiait, tu l'as dit toi-même. En introduction, il bénéficiait d'être à côté avec des gros catch and shooter comme
Gary Trent,
dans le rôle actuel comme Fred VanVleet,
même Zvi,
Gary Trent.
Zvi, il met des paniers pour eux. Zvi est utile pour eux.
C'est la question de Nick Nurse avec le retour de Siakam, c'est ça, c'est d'arriver à équilibrer ses rotations pour que ces 5 soient équilibrés.
Moi, j'ai une question pour toi, Adrien. Est-ce que Washington et Toronto, ils te font peur dans la course à la 6e place pour Chicago, 5e ou 6e place? Où tu te trouves de meilleur que en prenant en compte la blessure de Patrick Williams.
Bien sûr, qui est le gros point noir de ce début de saison. Bah, honnêtement, oui. Je pense que dans cette course-là, on l'a dit un peu sur les Wizards, elle va être assez serrée. Le niveau, il est assez homogène. Il y a même des équipes qu'on n'a pas encore citées. Enfin, Tom, tu as parlé rapidement des Hornets, où c'était toi, Alan, tout à l'heure.
Ouais.
Voilà, il y a même si Indiana a du retard à l'allumage, normalement, Boston, ils sont censés être dans cette course-là. Ouais. Tu as Boston, donc effectivement. Je veux dire, c'est très serré, ça ne joue à pas grand-chose, et je trouve que ces équipes un peu plus longues, parce que voilà, le problème des Bulls, on est en train de le voir avec la blessure de notre cher Patrick,
ouais.
C'est que bah, la rotation elle est courte hein, derrière de joueurs qui peuvent contribuer positivement. On vient d'en parler, de contribuer positivement, c'est l'important, la grande plus-value de ce Barnes en début de saison, le mec est rookie, il contribue positivement. Tu m'as dit pourquoi, comment, c'est une autre question, mais le fait est que le mec contribue positivement. Au bout, il y a plus de questions du bon, lui il faut qu'on l'enlève parce que c'est négatif, plutôt que de lui on peut pas l'enlever parce qu'il est positif. Forcément, des équipes comme ça, et on le voit sur ce début de saison, parce qu'ils ont pas voilà, ils font des perfs. C'est pas non plus des équipes qui ont, on va en reparler peut-être sur l'équipe d'après, qui ont un calendrier non plus, alors il y a que 10 matchs hein, on va pas s'enflammer, mais ultra simple. Il a fallu aller chercher des matchs voilà, sur le, sur la longueur d'une saison, les Raptors, moi je dis honnêtement là, sur ce truc là je les avais mis en play-in, je crois, voilà, dans la lutte pour les play-in. Ouais, encore une fois, bah, même chose, moi je les vois à ce niveau là parce que ça va être difficile d'aller chercher alors voilà, peut-être la 6ème place. Après bon, il y a eu des retards à l'allumage, les Bucks vont pas rester 10ème tout au long de la saison.
Non. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est un roster qui peut peut-être imploser entre guillemets, ou dans le sens où il y a énormément de joueurs que des bonnes équipes aimeraient avoir, et que Masai Ujiri l'a dit en début de saison hein, que enfin la victoire n'est pas une priorité pour eux aujourd'hui. Donc est-ce que voilà, enfin est-ce que après, quelqu'un ne se ramènerait pas par exemple, ouais c'est vrai, est-ce que quelqu'un se ramènerait pas pour Van Vliet ou pour des joueurs comme ça quoi,
dans ça va venir pour Dragic saison, mais toujours est-il qu'aujourd'hui ça a pas l'air d'être négatif pour eux quoi.
Ouais ouais, mais même Dragic peut-être que, enfin peut-être qu'il est juste plus bon.
Ouais,
peut-être que c'est ça hein, parce que même quand tu vois dans leur rotation, tu vois même un gars comme Malachi Flynn qui a fait une bonne saison pour là où il était drafté l'an dernier, ouais. Ben même lui tu vois il voit des minutes par parcimonie. Alors je sais pas ce qui se passe.
Donc Cleveland il sort de la rotation devant Dragic dans le deuxième quart.
Tu vois, mais même dans les changements, tu vois, Banton lui est préféré. Ouais. Alors que Siakam n'est même pas encore là, tu vois.
Bon après, genre, si t'es Dallas, peut-être que tu veux avoir Dragic pour le mettre à côté de Doncic, etc. Des histoires de vestiaire, de vétérans.
Mais t'as Brunson.
Oui, non, mais Brunson est très fort. Non, mais en plus, Brunson, il va être payé cher. C'est tant mieux pour lui. Non, mais je veux dire, ouais, il y a peut-être des cas comme ça. Mais effectivement, pour le reste, pour ta question, Tom, moi, je pense que Toronto, ils sont pas pressés, là. Hein.
Ouais,
ils font pas partie de ces équipes qui ont besoin de vendre, qui ont besoin d'assets très vite, parce que je suis pas sûr qu'ils perdent en valeur à l'intersaison prochaine.
C'est vrai, t'as raison.
Joueurs-là, voire encore après.
Ils ont eu de la chance à la loterie. C'était une équipe qui était peut-être pas prévue pour être dans le top 4. Ils se retrouvent dans le top 4. Ils draftent un joueur qui a l'air potentiel plus. Ça change un peu la lignée du truc. Ça peut leur permettre surtout d'attendre un petit peu, peut-être plus. Ou là, s'ils avaient drafté entre 10 et 14, tu draftes un prospect moins important. On se dit, bon, là, ouais, on va vraiment peut-être nulle part. Donc, on peut peut-être être vendeur sur certains profils.
C'est vrai.
Après, c'est leur volonté à eux. C'est est-ce que tu estimes, parce que tu l'as dit, c'est la question de Masai Ujiri, c'est est-ce que tu estimes à Toronto que tu as envie d'être cette équipe un peu moyenne avec plein de joueurs bons, mais on voit encore une fois, on retourne à cette question du plafond, parce que là, on a parlé, voilà, c'est une équipe à fort plancher, une nouvelle fois. La question du plafond.
Elle a un plafond, je trouve qu'elle a un gros plafond aussi, parce que Anunobi, là, le plafond défensif, il est.
Ouais, sur les ailes, enfin. Voilà. Quand tu vois
les matchs. Trent, Anunobi, ailes, ouais. Pascal Siakam, Scotty Barnes, bah, déjà, tu peux switcher de partout. Ça doit être un calvaire sur les fins de match. Setting playoff, cette équipe-là, pour moi, ça peut être un calvaire. C'est là vraiment un gros guard pour du gros guard play. Mais, il y a Van Vliet. Je pense qu'elle a, elle a vraiment, un peu comme Washington, elle a aussi pas trop de blessés pour l'instant. Alors oui, Siakam est un blessé, mais ça va revenir. C'est une équipe qui a deux trois joueurs blessés, bah peut se retrouver dans le cas d'un Chicago ou dans le cas d'un Boston ou dans le cas d'un Milwaukee sur un début de saison sans Jrue. Et là, tu te trouves à faire jouer des joueurs qui t'abaissent ton niveau. Pour l'instant, cette équipe-là, elle fait jouer des joueurs qui, pendant 48 minutes, sont bons, quoi.
Après, je trouve que moi, c'est un problème. Ils ont un problème au niveau du poste 5 pour l'instant, je trouve. Ils ont vraiment un problème au niveau du poste 5. Et en fait, on parle souvent.
Pas autant que Charlotte.
C'est vrai. Bah, ça, on l'avait dit pour Charlotte. Mais tu vois, dans le sens où on parle pas mal des pivots contributeurs au minimum ou presque, et des potentiels. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu es contre un bon pivot en face, bah, ces mecs-là, ils font pas l'affaire du tout. Qu'il te faut avoir, tu vois, un exemple tout simple, tu vois. T'as, par exemple, Joel Embiid, qui a quand même comme backup, il a quand même comme Drummond comme backup, tu vois. Alors oui, peut-être que Drummond c'est un mauvais titulaire, ou c'est pas un titulaire positif, mais avoir Drummond comme backup qui va aller jouer contre des backup bigs et des bancs, c'est quand même intéressant, tu vois.
Comme alors fort en backup au Celtics, ouais. Parce qu'il joue 4, mais c'est le backup de Williams. Et ça, c'est aussi hyper intéressant. Et le niveau de ton poste 5 sur 48 minutes, il est super important.
Oui, je faisais gros yeux pour ceux qui nous voient sur YouTube parce que la veille de cet enregistrement, il y a eu un Bulls Sixers. Ah. On a vu que Drummond, on l'a pas assez exploité, mais vraiment, le gars, il est vraiment pas bon.
Il est pas bon.
Par contre, en bid, il t'a fait coucou.
Voilà, par contre, là, ça va dans ton sens, Tom, c'est qu'effectivement, la rotation intérieure au poste de pivot des Bulls, avec donc en plus, là, Vucevic qui met pas ses shoots dedans. Bon, quand Vucevic n'est pas positif offensivement, t'as un vrai problème. Ouais. Donc, effectivement, t'as ce problème-là, mais dans une optique playoff, quand même, où tu resserres les minutes, etc., je sais pas, moi, ces Raptors m'inspirent plus que les Wizards. Je sais pas comment vous l'auriez, mais...
Plus oui.
Bon, après, t'as pas Bradley Beal.
C'est plus sexy.
C'est plus sexy. Trouve, oui. En fait, le truc, c'est qu'il y a moins de potentiel d'explosion. Et comme on le disait, moi, ce qui m'inquiète, en fait, pour ces Raptors-là, c'est à quel point leur playmaking défensif est réel. Parce que aujourd'hui, même si ils jouent, tu vois, même si ils ont un temps de possession moyen plutôt bas, comme tu l'as dit, parce qu'ils prennent à peu près leur temps, mais aujourd'hui, ils explosent pas mal les équipes sur de la transition. Puisqu'en fait, comme les mecs sont plus grands, et même, et on le voit pour leur création de séparation, comme les mecs sont plus grands, généralement t'as pas mal de par exemple de Van Vliet qui remonte le terrain, et t'as un des ailiers qui est en trailer, voilà, un des longs qui est en trailer, et même si tu vois il y a du monde dans la raquette, il y a le contact, mais il y a assez de longueur pour pouvoir après finir. Et aujourd'hui, ils génèrent pas mal de ces points-là, ben, grâce au playmaking défensif, donc en générant des interceptions, des déflexions et tout ça. Mais ça, au bout d'un moment, t'as plus ça. Parce que ça demande, tu vois, de l'effort, ça demande énormément d'effort de pouvoir jouer comme ça. C'est irritant. Donc, quand tu vas arriver vers, par exemple, février, mars, machin, peut-être qu'ils auront peut-être plus assez de jus pour jouer ça. Et là, peut-être que l'attaque va totalement sombrer, la défense sera pas suffisante pour la compenser.
Il va falloir compter sur la jeunesse de cet effectif qui est encore relativement jeune. Côté Toronto, bon, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, mais je pense qu'on est bien sur ces Raptors, donc plutôt positif pour l'instant. Enfin, ouais, pas de motif. Ouais,
et Nurse est un élite coach NBA. Pas de raison. J'adore regarder Toronto pour ce qu'il met en place chaque soir.
Ouais, totalement. Une équipe assez kiffante à regarder. Donc voilà, pour l'instant, du côté des Raptors. Un très bon début de saison. Et en parlant de bon début de saison, si je reprends les standings actuels de la NBA, il y a une équipe en haut, en tout cas à l'ouest, parce que bon, ils sont un match de moins, etc. Et cette équipe, elle est du côté de Golden State. Et c'était justement eux qui avaient la pression, en tout cas selon toi, Tom, quand on en parlait dans la dernière partie de nos previews, l'équipe qui avait pour toi la pression cette année en NBA, qui devait retrouver les playoffs, puisque... ben, on avait retrouvé un équilibre et on arrive peut-être vers l'acte final, pas en termes d'une année, mais quand même le chapitre, on va dire, autour de ces vétérans qui ont gagné beaucoup de titres. Je parle de Curry, je parle de Thompson, je parle de Draymond Green et donc des Warriors. Est-ce que tu es rassuré, Tom, finalement, par ce début de saison ?
Bah oui, clairement, hein, clairement. Hein. Vaut mieux faire un début de saison comme ils font que faire le début de saison des Pelicans, tu vois. Mais enfin, globalement, ils sont vraiment rassurants. Offensivement, je trouve qu'ils ont retrouvé un peu le mojo des Warriors d'avant Kevin Durant, où enfin il y a un petit peu plus de passes, beaucoup plus de shoot, même au niveau de l'adresse de loin. À trois points aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le plus de catch and shoot de la ligue, qui génère le plus de passes décisives, et on se rend compte que ils sont impressionnants offensivement, mais ils sont encore plus impressionnants défensivement. Là, Draymond Green cette saison, Draymond Green, bah tu vois, ils sont premiers de la ligue en défense. Draymond Green, il est vraiment très impressionnant, il est au cœur de la défense, il y a très très peu d'erreurs, et on le voit hein, dans les rotations. Il y a très peu de joueurs négatifs encore. Hein. On y revient, ça va être
le credo.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs de métier qui sont solides et qui font très peu d'erreurs. Tu as peut-être parfois des petites choses qui vont arriver, par exemple, au niveau de Jordan Poole, qui est un peu un joueur un peu pièce en l'air, où tu as des matchs où il peut prendre feu et tu as des matchs où il peut être totalement négatif pour toi. Mais aujourd'hui, il y a plus de matchs où il prend feu et il n'est pas trop négatif. Donc ça va, mais globalement, quand tu regardes la rotation, tu vois les Iguodala,
Autoporteur, Bielica.
Autoporteur, Bielica, ouais, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. C'est des mecs qui vont faire le job et qui vont faire le boulot soir après soir et qui vont pas, tu vas pas te faire battre par des erreurs. Même Lee aussi.
Oui,
mais ça, Damien,
ça, c'est des mecs, c'est des vétérans. C'est des vétérans. Donc, c'est une bonne équipe de vétérans. Après, à voir combien de temps ils pourront rester en santé.
Les trois lottery picks des deux années sont pas dans la rotation.
Voilà.
Pour des causes de blessures, pour des causes de développement en G-League, pour des causes de... Voilà. Mais ça aide.
Ouais, et puis encore une fois, on parlait de longueur d'effectif. Tu peux descendre assez bas parce que même Gary Payton, qui est à 9 minutes par match, là, dernièrement, on le voit en train d'exploser. Il prend sa place parce que, comme tu dis, il est assez intelligent. Il fait moins d'erreurs défensivement.
Il est mature. Ouais, il est demi-mature, voilà. Ce joueur.
Défensivement, il est bon. Bon, physiquement, il leur apporte. C'est l'offense, moi aussi, hein, Tom. Hein, c'est le truc qui m'a un peu impressionné. On a retrouvé une fluidité, en fait. Ouais, c'est-à-dire que ça joue, comme tu l'as dit, avec ses professionnels, avec ses vétérans. Ils ont retrouvé un fond de jeu. C'est-à-dire que, voilà, ils se passent beaucoup la balle. C'est quand même les premiers en assist pourcentage, donc le plus grand nombre d'actions qui finissent avec une passe décisive, pour schématiser rapidement. Mm-hmm. Ils sont très efficaces. Bon, Damon Green finira peut-être pas la saison en 50-40.
Ouais.
On va pas se mentir.
Ouais, c'est vrai.
Mais ils sont efficaces et ils ont augmenté le spacing. Bon, c'est une stat un peu particulière parce que c'est celle de Basketball Index, mais qui parlait l'année dernière, je me souviens, des superstars qui avaient le spacing apporté par les line-up autour des stars l'année dernière. Et Curry était entouré, en gros, de maçons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un spacing.
Ouais,
la stat, je vous la donne, même si elle est plus complexe, donc ça ne vous parlera pas forcément, mais elle était à 6,5, était dans donc 6,5, c'est en pourcentile. Vraiment dans les pires line-up NBA.
94% des line-up avaient plus de spacing.
De spacing que ceux où Curry jouait, ouais.
Voilà, donc là il a 29,1. Donc déjà de base, voilà, ça va beaucoup mieux. Sachant que Stephen Curry en lui-même est un
c'est
facteur
un spacing.
De spacing énorme. Donc ça va beaucoup mieux avec l'ajout, tu l'as dit, donc le retour d'Iguodala, autoporteur, top 15 shooter, le bien nommé. Voilà, Jordan Poole, Damian Lee qui mettent dedans. Bielica qui est très très bon.
Quelques minutes pour Moody par-ci par-là. Enfin, Iguodala plutôt solide. Et même, enfin, moi ce qui me étonne, tu vois, quand tu regardes la proportion de leur shoot pris, c'est une équipe qui va prendre plus de 50% de ses shoots à 3 points et qui va prendre un petit peu moins de. Il y a une plus grande part des shoots globalement qui sont pris à 3 points qu'à 2 points. Mais en fait, les shoots qui sont pris à 3 points, ce sont pas des shoots forcés. Enfin, c'est pas de l'analytique, en fait. C'est dans la continuité du jeu. Et les joueurs qu'ils ont sont globalement, hein, beaucoup plus à l'aise pour prendre des shoots à 3 points que prendre des shoots à 3 points assistés plutôt que prendre des shoots à 2 points. Et, moi, il y a quelque chose qui m'intriguait, en fait, quand je regardais les Warriors. Je me dis, mais ils drivent jamais. Enfin, bon, tu vois, le ballon circule, machin, swing, mais il y a pas de drive. Et en fait, tu te rends compte que il y a pas de drive puisque les mecs utilisent beaucoup les cuts grâce à la menace, en fait, du shoot à 3 points. Et c'est létal, en fait. Donc t'as personne dans la raquette et quand t'as quelqu'un qui arrive dans la raquette, le mec est servi et 2 points, tu vois, direct.
Ça fait 4-5-6 ans quand on regarde les Warriors, c'est un des trucs les plus impressionnants. C'est la peur qu'ont les défenses face à la menace Steph Curry et tout ce que ça ouvre, alors que Steph Curry n'a même pas la balle. C'est le concept de gravité, mais c'est le concept de gravité encore poussé à son paroxysme, parce que c'est même pas quand Steph Curry a la balle comment on réagit, c'est juste quand Steph Curry est sur le terrain comment on réagit. Et donc les backdoors avec Draymond Green qui, je vais pas balancer une hot take, mais pour moi je trouve qu'il a été complètement zappé du top 75 all time, je le dis, hein. Ce joueur
plus que Dwight Howard.
Non, honnêtement, Dwight Howard doit être dedans et on le sait tous, je pense qu'on est. Enfin, mais Draymond Green, c'est un cerveau plus. Et les espèces de lectures qu'il arrive à faire, il est juste parfait. Défensivement, on l'a dit, mais.
Et de côté.
Voilà, c'est. Moi, je veux juste nuancer quelque chose, c'est le calendrier. Honnêtement.
Aussi, c'est vrai.
Je l'avais noté, j'allais le dire. Je vous laissais parler jusque-là. Voilà.
Je pense qu'il faut le dire. Donc, ils ont battu 2 fois au KC, ils ont battu les Pelicans, ils ont battu.
Les Lakers.
Alors,
les Kings.
Les Kings, les Hornets dans un match où les Hornets, c'est. Pour regarder beaucoup les Hornets, c'est bien mal. C'est très, très variant. Donc, ils vont avoir un. Et encore, ça va pas changer parce qu'ils vont jouer les Rockets et les Timberwolves dans les prochains matchs. Donc
non,
ça
dans
va
le
encore...
fameux, du coup, j'ai regardé le fameux Strength of Schedule, donc la force du calendrier. Ils ont le deuxième plus simple.
Voilà. Donc ça va s'équilibrer un moment. Mais déjà, faut les gagner ces matchs. c'est bien, mais ce n'est pas, je pense pas que c'est la meilleure défense NBA comme le lead rating. Je pense pas que ça va continuer là-dessus. Par contre, ce qui va continuer, c'est les systèmes, c'est le système offensif, le jeu de passe, les DHO pour Draymond Green, et surtout Steph Curry qui prend toujours et toujours plus de 3 points. Et ça, c'est très important pour eux.
Et pour l'instant, il n'est pas si adroit.
Pas si adroit.
Ouais. Non, mais juste parce qu'il les prend et parce qu'il est là, ça change. Donc très, je suis pas forcément surpris. Enfin, pour regarder les matchs, je les trouve même pas des fois super flamboyants dans leurs matchs. Moi, je trouve que des fois, c'est pas si fou que ça. Enfin, ils ont eu du mal contre certaines équipes pas très 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 bonnes, mais ils arrivent à s'en sortir. Et c'est bien. Faut les prendre dans la course pour éviter le play-in, parce que je pense que le but de cette équipe-là, c'est d'éviter le play-in, c'est d'être dans la course à 3, 4, 5, 6. Faut gagner tous ces matchs-là, et ils le font.
Ouais, ils prennent de l'avance.
Il faut être bien placé jusqu'au retour du le fameux retour tant attendu de Klay Thompson. Parce que si tu as une équipe qui tourne comme ça, tu ajoutes un Klay Thompson, alors forcément qu'il reviendra de blessure après 2 ans sans jouer pratiquement, ce sera pas magique, mais tu pourras
staguer les minutes de pool différemment avec le banc. Je pense que ça pourra peut-être faire des choses plus... tu pourras élever ton niveau de guard play sur 48 minutes aussi, et ça peut vraiment les aider.
Et tu parlais de la peur du Tom, de la peur du 3 points plutôt aussi, hein, de cette fameuse gravité du gars dans le 3 points pour les ouvrir des cuts. Bon, qui fait plus peur en catch and shoot que Klay Thompson en NBA?
Et il cut très bien en plus.
Et en plus, il cut très bien. Là, faudra voir avec le retour de blessure. Mais voilà. Après, il y a quelques choses aussi. Ils perdent pas mal la balle, mais c'est un peu le contre-coup aussi de cette
de ce jeu de passe. Ouais, c'est ça,
ils font beaucoup de passes. Passe, ouais. Donc voilà, mais au final, une équipe très plaisante, encore une fois, à avoir joué. Très efficace pour l'instant, attention au calendrier. Mais bon, on les voit tenir ce rythme pour éviter les play-in ou pas, alors du coup?
Je sais pas, moi j'ai une question pour Alan. Alan, il se passe quoi au retour de Wiseman?
Il joue ou pas? C'est ça la question.
Il joue ou pas?
Tu dois le faire jouer pour moi. Tu l'as drafté top 3. Bon, alors, t'as certaines organisations qui, une fois qu'elles ont incorporé le joueur, qu'il soit drafté 1, 30, 60 ou non drafté, ils vont le traiter un peu d'une certaine manière. Mais il est labellisé comme, pour moi, dans leur tête, il est labellisé comme pivot du futur. Mais je pense que oui, je pense qu'il doit jouer 10 minutes, 10, 15 minutes.
Prends les minutes de Looney, du coup?
Qui est bien meilleur défensivement.
Qui est bien meilleur défensivement et qui est vocal, qui connaît le système, qui a joué avec beaucoup avec Steph, Draymond. Donc, c'est très compliqué. Moi, je pense que j'enverrais pas mal Wiseman en G-League, hein, honnêtement. Après, il faut voir comment en termes d'ego, en termes de psychologie, ça se fonctionne. C'est une question vraiment pas simple. Autant Kuminga, Moody, c'est des rookies. Les envoyer dans une équipe de G-League en leur disant on va prendre 30 minutes de temps de jeu.
Ouais, il y est, Kuminga d'ailleurs.
Kuminga y est, et il a fait l'aller-retour dans la même journée ensuite pour faire ses débuts en NBA. Moody a dit que lui, c'était pas vraiment un souci, mais que voilà, il y a une progression linéaire qui allait se mettre en place. Et puis lui est plus facile de toute façon à incorporer parce qu'il a pas besoin du ballon pour vivre. Il peut être plus propre dans certaines choses. Wiseman, je n'ai pas de réponse à cette question. De toute façon, j'ai pas de réponse à cette question. Parce que s'il joue, ça va influer négativement sur ton équipe, mais il faut le faire jouer quand même à un moment. Il y a eu des bons passages l'an dernier, même si c'est pas un joueur que j'ai apprécié, que je pense qu'il a été surdrafté. Il y a quand même eu des passages, des prémices de choses intéressantes, mais il est moins bon que Kevon Looney aujourd'hui. Voilà.
Toute la question, elle est là, tu l'as dit. Je pensais, quand est-ce que Wiseman va, entre guillemets, mettre un peu du plomb dans sa cervelle, comprendre le système et être plus à l'aise dans le rôle qui lui prête, parce que j'imagine qu'ils ont une idée en tête, parce que tu peux faire bien avec sûr. Un Wiseman maximisé offensivement, tu peux faire quelque chose de très sympa du côté des Warriors. La question, c'est est-ce qu'il va s'y faire, est-ce qu'il va être
ça peut être une super menace de lob pour un Draymond, pour un Curry. Ça peut être un joueur qui son profil, c'était vraiment un finisseur létal d'action. Voilà, dans le reste, il était un petit peu compliqué, tout le monde s'est un peu enflammé sur son shoot, mais c'était pas vraiment ça ses qualités. C'est que c'est en fait quand tu le pouves une menace de lob super importante, intéressante. Et ça, c'est un truc qui a manqué par moment aux Warriors. On n'a pas toujours vu une menace de lob super importante.
Ils avaient dans leur pivot remplaçant.
McGee l'utilisait bien un moment sur ces choses-là, mais voilà, le truc c'est que cette menace-là, elle est peut-être pas, elle est pas assez aujourd'hui forte pour venir gommer et les soucis défensifs. C'est toujours ça, hein. Tom en parle très bien depuis longtemps. Est-ce que tu es assez fort d'un côté du terrain pour que ça cache un peu là où tu es moins fort de l'autre côté? Dans des équipes de play-off, des équipes, un joueur qui a vraiment qui est ciblable d'un côté du terrain, c'est pas possible.
Après, c'est vrai qu'il peut apporter du spacing vertical, puisqu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, quand tu regardes, par exemple, les gars qui peuvent arriver à se créer, entre guillemets, des paniers au cercle en partant peut-être du dribble, il n'y a que peut-être Wiggins, en fait, qui offre... Et Wiggins, c'est peut-être Poole, mais Poole, c'est plus un peu un gunner. Enfin, c'est plus un mec Pierre à la Nick Young, quoi. Ouais. C'est plus un mec à la Nick Young, quoi.
Wiggins, ouais. Ouais, parce que bah il attaque mieux les close-out qu'avant, en fait. Et donc et comme t'as Curry Clay, ils vont respecter. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on respecte autant souvent les close-out sur Wiggins. On le respecte autant le close-out fort, mais il met dedans quand même. Donc et vu que c'est un bon athlète, il peut se créer ça en attaquant le close-out.
On revient à cette idée du costume un peu pour Van Vliet. Je pense que Wiggins, il a souffert. Tu vois, tu parlais des rôles des ouais, joueurs draftés haut, Alan.
C'est vrai, ouais.
Wiggins, il a souffert de ça pendant ses premières années à Minnesota. Là, depuis qu'il est aux Warriors. Un peu caché entre guillemets derrière Curry, derrière Green, parce que pour l'instant il n'a pas trop vu Clay, ben il est super à l'aise et il est super efficace et c'est un très bon joueur. Et sur cette menace verticale dont vous parliez tous les deux, ben, l'avantage de ces vétérans aussi, de ces joueurs qui comprennent bien le jeu, c'est que tu as des bons passeurs, des Iguodala, même des autoporteurs, etc. Tu as des mecs qui vont trouver le gars sur les bons cuts. Donc à Wiseman de trouver son rôle là-dedans finalement.
Complètement.
Avant le retour de Clay, puis bon, ben, on souhaite de revoir les Warriors au top pour la fin en gros de ce trio, parce que quand même. On a envie de les revoir comme contenders, on va se le dire. Il nous reste maintenant une dizaine de minutes de podcast. On s'était dit que si on avait un peu de temps, on allait parler d'une autre équipe. Une autre équipe, justement, je l'évoquais en introduction, elle fait parler beaucoup de monde. Il y a eu un peu d'enflammade peut-être. C'est donc les Memphis Grizzlies de l'ancien meilleur marqueur, même si c'est un peu calmé ce cher Ja Morant. Les Grizzlies, bon, qui n'avaient pas une hype énorme avant le début de la saison, et puis qui là, sous l'impulsion de Ja Morant, hein, finalement, qui est assez impressionnant, qui est une machine à highlight en plus, qui ont fait un bon début de saison, même si là ils sont, alors j'allais dire rentrés dans le rang, c'est peut-être un peu dur hein, parce qu'ils sont cinquième à 5-4, etc. Bon, Tom, est-ce qu'on est heureux de ce début de saison des Grizzlies? Est-ce qu'on s'enflamme? Est-ce qu'on reste raisonnable?
Non, on est quand même heureux. Hein, on est quand même heureux. Seule équipe à avoir battu les Warriors, hein, qui commençaient leur gros homestand de 8 matchs et ben, ils perdent du coup d'entrée. Contre Memphis dans un remake du match de play-in avec ben, un peu pareil, un peu dans le même style de match d'ailleurs. Ben, globalement, heureux du début de saison, il y avait pas mal de questions sur comment ça allait fonctionner offensivement, qui allait reprendre le rôle et la part de l'importance offensive qu'avait un joueur comme Jonas Valanciunas l'an dernier. On a vu que des joueurs comme D'Anthony Melton, Desmond Bain et Ja Morant ont vraiment bien repris ce rôle-là. Après, il y a quand même des choses qui sont un peu négatives à mon sens. Hein. Donc sur le niveau défensif, alors oui, c'est vrai que le fait que Dylan Brooks ne soit pas là, ça n'aide pas. Mais enfin, globalement, D'Anthony Melton et Desmond Bane sont plutôt de bons défenseurs, mais ça ne suffit pas globalement pour sur le périmètre. Il y a Jaren Jackson qui, enfin. Bien moins bon que ce qu'était Kyle Anderson l'an dernier au poste 4 défensivement. Donc du coup, on a pas mal de mal défensivement et surtout au niveau des shoots à 3 points, on se fait totalement torpiller par les adversaires. Donc Memphis a un bon bilan sur le plan comptable et avec aussi le plus gros qui ont joué le calendrier le plus dur depuis le début de la saison. Et ben le bilan comptable est plutôt positif. Par contre, le bilan chiffré et sur le terrain et même dans les stats, Memphis prend pas mal de blowouts. Les victoires sont courtes et les défaites sont très larges. Donc voilà.
Encore que parce résumer. Que t'as paumé un match contre les Lakers, pas grand chose.
Pas grand chose.
Meilleur bilan. Les Lakers, t'as aussi perdu contre des Blazers qui ont du retard à l'allumage, donc ça aurait pu être limite un peu mieux.
Ah, mais c'est fait exploser par les Blazers. C'est fait exploser par les Blazers.
Tu te fais exploser, mais c'est un peu une surprise par rapport aux forces en début de saison. Hein. C'est surtout là que je voulais en dire. Mais tu l'as dit, ouais, une défense un peu gruyère. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alan, de ces Memphis Grizzlies 2021-2022?
Ouais, c'est une de mes équipes préférées, moi. C'est une de mes équipes préférées. De toute façon, c'est une des équipes préférées de NBA Draft Twitter parce qu'ils draftent que des joueurs de favoris.
On ne voit plus Brandon Clark, hein, cela dit.
Non.
Et ça, on en parlait lors de la saison rookie, en plus de ça, Alan. On a eu un débat sur Brandon Clark.
Ils l'ont tué. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais, non. Moi, j'adore Desmond Bane. C'est vraiment.
Incroyable.
On était. C'est vraiment bien de voir un joueur qui en fait est juste propre dans tout et qui transpose tout de suite ce qu'il sait faire. Une franchise qui sait bien ça, qui sait bien mettre en avant. Et Ja est un des, je pense, un des cinq joueurs, un des cinq League Pass players. Il y a des League Pass teams. Moi, j'essaie de classer mes League Pass players. Et Ja, il est tous les soirs, t'as envie de le regarder. T'as envie de le regarder. Il est hyper fun. Il y a c'est une équipe avec du spacing. Enfin, c'est bien coaché. Il y a une bonne relation avec la G League. Moi, j'attends de voir le développement de Zaire Williams parce que je crois beaucoup en joueur et parce que il a eu une ou deux séquences où je l'ai trouvé, je l'ai tweeté cette semaine où, comme il a réussi à mettre un peu dedans contre Denver en catch and shoot, il s'est fait close out et donc il a pu attaquer le cercle après ça, sachant que son gros problème, c'est son manque de physicalité et son dribble. Bah, si tu lui permets d'éviter un peu ça avec un fort close out, ça peut l'aider. Ça peut ouvrir pas mal de choses dans son jeu. Et puis, moi, j'ai juste une question. Tom, est-ce que vous pouvez être intéressé par, est-ce que Memphis peut faire un move à la deadline, est-ce que un profil à la, je sais qu'Ilias veut refourguer Jeremy Grant à peu près 28 franchises. Est-ce que un profil de 3-4 polyvalent, ça peut être intéressant pour vous? Parce qu'en fait, Ja, c'est le porteur de balle. Dans l'idée des gens, tu finis le match avec Jackson en 5, même si tu arrives souvent à le dire que c'est plus un fantasme qu'une réalité aujourd'hui. T'as Desmond Bane, t'as d'autres joueurs. Est-ce qu'il faut peut-être, ouais, un 3-4, athlétique à rajouter à côté de Dylan Brooks qui va revenir et qui manque aussi.
Ouais, c'est ça, parce que enfin ça dépend ce que tu penses, je pense, de Kyle Anderson. Après, moi Kyle Anderson, c'est un joueur que j'aime beaucoup et enfin moi c'est le deuxième joueur que je mets dans mon closing five derrière Jamorin. Pour te dire à quel point je trouve que ce mec est important. Après,
c'est vrai. Il fera pas de conneries, quoi. C'est ça que tu
dis. Il fera pas de conneries. C'est un grand générateur d'interception. Sur les aides défensives et la lecture défensive, pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on a. Là où t'as peut-être D'Anthony Melton qui est beaucoup plus playmaker défensif, donc qui va générer plus d'interceptions, de déflections. Kyle Anderson, c'est vraiment dans la notion de positionnement. C'est-à-dire que par son positionnement et sa lecture, il va éviter que certaines choses n'arrivent. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, surtout quand t'as un joueur comme Jaren Jackson Jr. qui a un peu de mal à progresser défensivement. Alors oui, contre Denver, il a fait des choses intéressantes. D'ailleurs, on gagne deux matchs serrés la maison face à Denver.
J'ai bien aimé contre les Clippers aussi, de mémoire. Ouais. Les matchs contre les Clippers, je le trouve bien dans la fin de match.
Ouais, c'est ça. Il était plutôt bon. Mais c'est vrai que défensivement, il a encore du mal à être l'ancre défensive attendue. Donc ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Après, il a le temps, hein. il a quoi.
C'est vraiment marrant, marrant. Comme Towns, des mecs qui transposent de l'autre côté du terrain ce qu'on attendait d'eux en tant que prospect, c'est super marrant en fait.
Bah comme Ben Simmons, hein. Ben Simmons qui défendait pas, Ben Simmons qui défendait pas et qui devient une usine défensive en NBA. Enfin, il y a des joueurs comme ça qui transposent pas. Tout. Mais c'est vrai pour l'idée du move, on entend pas mal parler de, par exemple, de Jeremy Grant ou même parfois de Christian Wood qui est Rockets. Moi je pense pas, je pense que peut-être qu'il y aura même un trade plutôt entre guillemets pour peut-être laisser partir un joueur. Moi je suis pas pour, mais pour laisser partir un joueur comme peut-être Kyle Anderson pour ouvrir plus d'opportunités de minutes à Zaire Williams, puisque enfin je pense que au retour de Dylan Brooks, il verra de moins en moins le terrain, tu vois. Et t'as déjà Brandon Clark qui ne joue pas, puisque Tillman est meilleur. Donc,
t'es jeune après, hein. Kyle Anderson en moins, t'es très très jeune, hein. T'es vraiment.
Ouais. Et puis c'est le seul mec qui a de l'expérience de playoff, qui a gagné un titre avec les Spurs aussi, Kyle Anderson, qui a été l'ailier de l'équipe des Spurs où Kawhi Leonard n'était pas là et qui est arrivé plutôt loin, qui avait fait une très bonne saison régulière. Donc très bon joueur.
Oui, tout à fait, mais un de tes deux vétérans entre guillemets, parce qu'il a 28 ou un truc comme ça.
Ouais, 28 ans.
Il y a Kyle Anderson, Steven Adams, et après le reste a tout moins de 25 ans.
Hein. Ouais.
Bon, bah à voir. En tout cas, voilà, fallait qu'on les évoque un peu, les Grizzlies qui ont fait un bon début de saison. Attention, faut pas non plus attention à l'enflammade, attention à la défense notamment, les retours à venir. Mais bon, a priori, ça se passe plutôt bien. Je pense que c'est le maître mot de ce podcast, c'est plutôt des équipes. De toute façon, un début de saison positif, on peut pas déterminer ça comme négatif. Quoi qu'il arrive, tu prends de l'avance, surtout que là, même si c'est que 10 matchs, Ben, si tu prends de l'avance, quand ça se joue à quelques matchs près, notamment avec ces playoffs étendus, avec les play-in, et ben, c'est toujours ça le prix. Donc a priori, bon, on est aussi optimiste pour les Grizzlies. On les voit accrocher les play-in ou pas?
Ouais, je pense. Après, moi, j'ai vraiment dans l'idée qu'ils peuvent aller chercher le titre de division, puisque quand tu regardes la division Southwest cette année, c'est pas tout beau. Hein. C'est pas tout beau avec les Spurs, ouais. Les Rockets, les Pelicans et Dallas. Au final,
ouais. Tu te bats avec Dallas. Hein.
On se bat avec Dallas et Dallas, c'est pas forcément plus rassurant que nous sur le début de saison. Ils ont Luka Doncic, on a Jamorant, mais après on a quand tu prends les joueurs peut-être 4-5-6. Ou 3, 4, 5, ils sont peut-être meilleurs que ce qu'a Dallas en fonction du Porzingis que tu as aussi. Même quand tu prends les coachs, c'est vrai que...
Memphis gagne.
C'est ça. On dit souvent, Ilias aime le répéter, on dit souvent, généralement, le meilleur moyen de sous-coter des joueurs, c'est de surcoter leur coach. Et le moyen de sous-coter un coach, c'est de surcoter les joueurs. Et là, en fait, avec Memphis, t'as un peu la dualité où des fois, t'as l'impression que les joueurs sont surcotés et que le coach est sous-coté. Et parfois, t'as l'impression que le coach... et sous-côté les joueurs, enfin sous-côté ou le contraire, pardon.
T'as l'impression que le coach est un peu déjà dépendant des fois. Ouais. Voilà.
Ouais. Bah, c'est plutôt pas mal. Si tu confonds les deux, c'est que t'as un équilibre plutôt sympathique, hein, un équilibre que tu recherches. Au final, une espèce d'harmonie, surtout sur une jeune équipe comme ça, parce que voilà, je l'ai lâché comme ça vite fait, mais être une jeune équipe et être compétitif pour les play-in déjà, c'est plutôt bon signe. T'as des assets, comme tu le disais, des joueurs qui ont une certaine valeur, que ce soit pour des contenders avec des vétérans ou dans le futur. T'es dans une bonne situation, quoi qu'il arrive.
Bah, on est ce que les Pelicans voudraient être, en vrai. Non, mais c'est sérieux. Non, mais
sérieux. Ils ont déjà pris cher la semaine dernière pendant 20 bonnes minutes et on les avait.
Ah, mais ils ont continué cette semaine à faire des trucs pas très jolis. Donc,
Ouais, c'est sûr que c'est pas la joie. On pense aux fans des Pelicans qui, eux, vivent un début de saison un peu plus compliqué que les fans des équipes.
Désolé, c'est déjà fini. Hein.
On sait pas.
La saison est finie.
On parlait des matchs. Voilà, je parlais à l'instant des matchs que tu prends d'avance. Là, ils ont pris beaucoup de retard. Hein. Hein, tu commences à 1-9.
Je pense qu'ils sont en 1-9. Hein.
Ouais.
1-9, et il faut que Zion. Et la théorie, c'est qu'il faut que Zion revienne très fort si tu veux.
Et il va revenir dans un mois. Il sera là, il va rater un mois de compétition.
Et surtout qu'il ne se reblesse pas parce que les blessures au pied, c'est délicat. Hein.
Surtout avec ce type de jeu, avec son physique. C'est vrai que c'est
j'ai
dommage.
J'ai mis un petit tweet de son Tomar de Sacramento.
Ça met tout.
Parce que ça me manquait un peu et je voulais
cette
rappeler.
Cette prise d'appui, ce premier pas là.
Ça faisait un peu plaisir de remettre ça dans la TL.
Bon, bah, on va conclure le podcast de cette semaine comme la semaine dernière avec Zion qui nous manque. Ouais, qu'on espère retrouver assez vite. En tout cas, voilà. Donc, tant mieux pour les quelques équipes qu'on a citées sur ce début de saison pour lesquelles ça part bien. Il y en a d'autres. J'aurais bien aimé pouvoir fanfaronner un peu, mais on est sur deux défaites de rang.
Bientôt. D'ailleurs, les Sixers, il va falloir qu'on en parle pour autre chose que le drama sur le terrain. Parce que sur le terrain, ils font des choses qui sont vraiment intéressantes, les Sixers.
Seth Curry est un grand malade.
Ah, ben ça.
Le niveau de court play est très, très fort des Sixers.
Eh bien, on parlera peut-être des Sixers la semaine prochaine. À voir. On vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés pendant cette nouvelle heure de podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les plateformes de podcast, bien sûr. Donc Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Vous pouvez vous abonner, nous mettre une gentille note. Ça fait toujours plaisir également. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux hein, avec nos CM qui sont de plus en plus actifs. On est là pour échanger avec vous. Ça fait plaisir. Vous pouvez voir du coup les salles européennes avec Alan. Vous pouvez voir des saillies de Tom contre la défense des Grizzlies. Bref, on est ravis d'échanger avec vous à chaque fois. Messieurs, c'était très sympa.
On peut aussi te voir sur des bas rap. Hein.
Oui, avec Ilias. Avec Ilias, des grands débats sur le rap de début des années 2000. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir été là. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais.
Salut.
Bonne semaine.
Salut, bonne semaine.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.